Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, lancement ce mercredi à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi Tshilombo de la commémoration du génocide congolais du 2 août 1998. Ce triste événement a été ponctué par d'émouvants témoignages de quelques victimes venues de l'intérieur. La CENI convoque dès aujourd'hui l'électorat pour les élections des députés provinciaux et conseillers communaux. Cette institution d'appui à la démocratie assure que les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront opérationnels jusqu'au 22 août prochain. Notre invité, c'est le chef de la province éducationnelle Sud-Kivu 1. Simon Zono assure que pendant ses vacances sont exploités les rapports de la fin de l'année scolaire et la revue annuelle des performances. Madame, messieurs, bonsoir. La date du 2 août représente un jour spécial dans la mémoire des Congolais. Propos tenus aujourd'hui à Kinshasa par le président de la République à l'occasion de la commémoration du génocide congolais. Félix Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé ainsi après d'émouvants témoignages de quelques victimes du génocide congolais. On écoute un extrait choisi par Anleirong Mouchinj.
Comme vous le savez, la date du 2 août représente un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que nation et peuple de la République démocratique du Congo. Ce 2 août de l'année 2023 l'est davantage, car il vient d'être inscrit d'une encre indélébile et ensanglantée dans notre mémoire collective et nous rappelle déjà un autre jour non moins symbolique, le 4 janvier, dédié à nos martyrs de l'indépendance. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de chagrin, mais aussi de détermination et de résilience face à l'adversité existentielle qui nous est imposée que je prends la parole par devoir et par responsabilité en ma qualité de garant de la nation pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais génocide. En mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles orchestrés par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts nos ressources naturelles.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, une trentaine d'images montrant des atrocités qui ont été commises dans cette province sont exposées au rond-point de la BDG La Goma. Une cérémonie d'hommage aux victimes a été organisée par le gouverneur Constant Dima. Un reportage de Bernard Denyangui.
Après une minute de silence, le gouverneur de province Constant Dima a déposé symboliquement une gerbe de fleurs sur un socle prévu au milieu du rond-point Bédégel par le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles et autres crimes graves, Fonarev. C'était en présence des survivants des affres de la guerre vécues au Nord Kivu depuis le 2 août 1998. Occasion pour l'une de ces derniers de lancer un message au gouvernement congolais et ses partenaires, Madame Elibera Taburato.
Il y a nos frères qui sont morts, il y a d'autres qui sont restés handicapés. Et nous réclamons que la justice soit faite et la réparation des victimes. Et que les familles des victimes aussi soient prises en charge. Parce qu'il y a des parents qui ont laissé des enfants qui n'avaient pas encore commencé à étudier. Ils ont droit aux études comme tant d'autres enfants. Et en tant que victime, la première des choses est que la paix revienne chez nous, que la guerre cesse et que nous puissions rentrer chez nous.
Pour les sources du Fonarev, cette exposition photo va durer une semaine, comme pour faire un appel à l'action contre la guerre visant le pillage des ressources naturelles qui vient de durer plus de 25 ans dans l'est de la RDC. Une guerre qui a causé près de 10 millions de morts, d'où la considération du génocide congolais. Jean-Noël Constant Sigle, Goma, Bernard Denyangui, Radio Kapi.
Et puis la MONUSCO assure depuis des mois la protection physique de plus de 100 000 déplacés à travers ses bases opérationnelles situées à Bayo, Fataki, Ro et Jina, territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. La chef de la mission onusienne Bintou Keïta a livré ces chiffres aujourd'hui lors d'une conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Dans cette province, la situation est encore plus aiguë. Plus de 100 000 déplacés dépendent de la protection direction de la MONUSCO dans les territoires du Djougou et de Mahagi. Madame Bintou Keïta a indiqué que le rétablissement de la paix ne sera possible qu'après la résolution durable du conflit. On l'écoute au micro de Martin Sebou-Djangwe.
Je comprends la frustration et le désespoir des communautés qui se sentent impuissantes face à l'occupation illégale de leur territoire par le groupe M23. Mais je souhaite les rassurer que les efforts diplomatiques et politiques ont été intensifiés ces derniers mois, permettant d'aboutir à un cessez-le-feu en l'état actuel. Le travail des diplomates est assez ingrat, car beaucoup d'efforts sont déployés en coulisses et ne sont pas nécessairement connus du grand public. Ces efforts se poursuivent au quotidien pour une résolution durable et définitive de la crise du M23 pour permettre un retour à la paix et à la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo.
Autre nouvelle en plus bref, la CENI convoque ce mercredi l'électorat pour les élections des députés provinciaux et conseillers communaux. Cette institution d'appui à la démocratie précise que les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront ouverts et opérationnels jusqu'au 22 août prochain, soit 20 jours de 8h30 à 16h30. Fin hier à Kinshasa, du forum économique entre la RDC et l'Angola, les deux parties ont signé à l'occasion des engagements commerciaux et douaniers pour booster leur développement économique et celui de l'Afrique subsaharienne. C'est ce qu'a indiqué Mario Augusto, ministre angolais de l'économie nationale et de la planification. C'est ce que nous explique Paul Matendo.
Outre les engagements commerciaux et douaniers, Mario Augusto a indiqué que les deux parties ont également signé des engagements économiques sur le plan énergétique.
Nous avons le côté commercial, c'est mentionné. Nous avons aussi le côté douanier pour la gestion mutuelle, la gestion conjointe de nos frontières. Nous avons la coopération énergétique.
Pour Vital Kamere, ministre de l'économie nationale, ces engagements vont rapprocher non seulement les secteurs publics, mais aussi les opérateurs économiques des deux pays.
Revenez à nous, membres du gouvernement, qui avons la responsabilité de gérer les pays au quotidien, d'élaborer des politiques et de les mettre en place, de saisir cette proximité de nos chefs d'État pour réaliser ces forums. Idée ingénieuse pour que les secteurs privés angolais et les secteurs privés congolais, les secteurs publics angolais, les secteurs publics congolais puissent se rapprocher davantage.
Un autre forum du genre aura lieu en Angola avant la fin de cette année, a déclaré le ministre angolais de l'économie nationale.
Allons maintenant en Ituri où le coordonnateur provincial du PDDRCS est détenu depuis lundi dernier à l'auditorat militaire de la province pour détournement présumé de fonds alloués au programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Des fonds qui avaient été mis à sa disposition par le ministère de la Défense nationale. Pour en parler, retrouvons à Bounia Isaac Remoyope.
Cela faisait environ 2 semaines que la justice militaire tentait de mettre la main sur le coordonnateur provincial des DDRCS en Ituri, Willy Abibou. Selon l'avocat général de l'auditoire après la cour militaire, plusieurs mandats de comparution ont été émis contre lui sans succès. Cela a été suivi des mandats d'amené qui a été exécuté lundi dernier alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Kinshasa. Il est accusé d'avoir détourné les fonds destinés au programme de démobilisation et désarmement en Ituri. Il s'agit entre autres des salaires de certains agents du bureau provincial qui acquisent plusieurs mois d'arriérés, des frais de sensibilisation des miliciens adhérés à ces programmes, mais aussi pour la prise en charge d'une centaine de démobilisés cantonnés depuis 3 mois aussi des transits de Diango. La justice procède à son audition pour établir ou non les faits qui lui sont reprochés en vue de l'ouverture d'un possible procès dans cette affaire qui met à mal ces processus, affirme l'avocat général. Certains de ses collaborateurs ont été interpellés la semaine dernière par cette juridiction pour besoin d'enquête dans les mêmes dossiers. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sur Radio Okapi, il y a également le Sud Kivu où le glissement de terrain est imminent à Bouchouchou et à Nyamukubi dans le territoire de Kalehe, situé à plus ou moins 45 km au nord de la ville de Bukavu. C'est ce qui ressort des résultats des recherches présentées aujourd'hui à Bukavu par les experts de l'Université officielle de Bukavu et ceux du Centre de recherche en sciences naturelles de l'URO. Ils recommandent par conséquent une campagne de sensibilisation afin de mettre la population à l'abri du danger. À Bukavu, la correspondance d'Emmanuel Elemejua Kabedi.
Les recherches sur les glissements de terrain et des crues éclairs à Bouchouchou et Nyamukubi ont été menées au mois de mai dernier par les experts de l'Université officielle de Bukavu et du Centre de recherche en sciences naturelles de l'UIRO. Il en ressort que les glissements de terrain restent actifs dans cette zone. Cela au vu de menaces avec forte probabilité imminente dans l'avenir. Ainsi, au mois de mai dernier, trois importants bassins versants ont été impactés. Bien que le phénomène étant naturel, à cela s'ajoute l'activité humaine de déforestation comme cause. Ces résultats révèlent alors un manque de communication et de sensibilisation locale de la population au risque des zones impropres à l'habitat. Rappelons que la catastrophe de Calais du mois de mai dernier avait fait plus de 500 morts, avec plus de 2500 disparus et des dégâts matériels incommensurables. C'est après d'autres catastrophes et d'autres dégâts dans la même zone en 2014, 2016 et 2020. Les recommandations de ces résultats de recherche seront soumises à qui de droit. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Non loin de là au Maniema, plusieurs maisons du quartier cité dans la commune de Mikelenge sont actuellement inaccessibles. Face à cette difficulté, la fondation Aziza Muzelela a entamé hier le débouchage des caniveaux à Kindu. Florence Kizalunga.
Le mardi 1er août, cette structure était sur avenue Basoko dans le quartier cité commune de Mikelenge. Sur place, les membres de cette fondation ont procédé à l'opération d'ouverture des caniveaux et des remblayages à d'autres endroits afin de permettre à la population de circuler librement. Mathias Misenga, coordonnateur de cette fondation.
L'objectif est d'arranger jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que nous avons notre objectif, c'est la ville qui nous propre. Nous avons canalisé les eaux, nous avons essayer un peu de rembler là où il y avait des trous. On a fait sortir aussi les immondices qui fermaient déjà le caniveau ici. Il n'y avait pas le passage. Nous avons arrangé pour que la population puisse passer bonnement.
Les habitants félicitent les travaux de la fondation Aziza Muzelela.
Nous apprécions d'abord la bonne foi de maman Muzelela Aziza de venir arranger notre avenue, avenue Basoko. Notre difficulté était d'accéder à nos parcelles. Même si on construisait ici, il faudrait laisser les matériaux de construction sur notre avenue. On paie encore doublement, mais pour le moment ça va, il y a maintenant accessibilité, on peut accéder dans le passé facilement.
Signalons que c'est chaque samedi que la fondation Aziza Muzelela se livre à des travaux d'assainissement. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a appelé ce mercredi après-midi au dialogue pour éviter une dégradation de la situation au Niger après un coup d'état militaire survenu la semaine dernière. Madame Maria Zakharova met en garde contre toute intervention armée étrangère et elle pense qu'il est urgent aujourd'hui d'organiser un dialogue national et cela pour éviter et rétablir la paix dans ce pays de l'Ouest sahélien. Et puis au Gabon, Pierre Claver Maganga claque la porte de la coalition dénommée Alternance 2023. Cette plateforme politique qui avait été créée en janvier dernier rassemble plusieurs ténors de l'opposition en vue des élections générales du 26 août prochain. Le groupe devait dégager urgemment une candidature unique de l'opposition face au président sortant Ali Bongo. L'ancien ministre et vice-président a finalement déclaré qu'il serait candidat à la présidentielle. Le chef de file du parti PSD a expliqué sa défection par des divergences persistantes, des divergences d'idées et le manque d'esprit de consensus au sein de l'alternance 2023.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de la province éducationnelle Sud Kivu 1, Simon Zono, affirme que pendant ses vacances sont exploités les rapports de la fin de l'année scolaire, mais aussi la revue annuelle des performances. Il s'entretient avec Rachel Kiesembangu.
Prophète Simon Zono Ingalea, bonjour.
Bonjour Madame Rachel.
En cette période des vacances, à l'attention des parents mais aussi des écoles, comment se font les inscriptions des enfants dans les écoles?
S'agissant des inscriptions, elles doivent se faire en deux phases. La première phase a eu lieu au mois de juillet ici pendant 5 jours et la deuxième phase au mois d'août. Et ces inscriptions-là sont gratuites.
Pour tous les niveaux?
Oui. D'ailleurs, les inscriptions, généralement, doivent se faire dans les classes de recrutement.
Lesquelles ?
Par exemple, la 7e année de l'éducation de base, la première année des humanités et la première année primaire et la première année de l'enseignement maternel. Ce sont des classes de recrutement. Dans les autres classes, normalement, on inscrit lorsqu'il y a des enfants dont les parents sont en mutation pour l'une ou l'autre raison. Mais alors, les inscriptions sont strictement gratuites. Les parents ne doivent débourser aucun rond. Mais je dois aussi profiter de votre micro pour dire que pour les classes des 7e et des premières années, l'admission des enfants est subordonnée à leur réussite, soit à l'ENAFEP ou au test des acquis scolaires organisés dans le cadre de tel suspect.
Cela va de pair pour les écoles privées.
Oui, ce sont des normes qui concernent toutes les écoles, de tous les réseaux confondus, de tous les secteurs, qu'ils soient publics ou privés.
Pendant ces temps de vacances, que fait l'EPST? Mais aussi en tant que directeur provincial de l'EPST Sud Kivu 1, que doivent faire les enfants pendant cette période des vacances? Comment doivent-ils s'occuper?
Bon, je commence par ce que nous faisons, nous, en tant qu'État, en tant que ministère de l'EPST pendant les vacances. Et il faut retenir que nous, comme administratifs, nous n'avons pas de vacances. Nous avons plutôt des congés de reconstitution annuels. Pour l'instant, nous sommes en train d'exploiter les rapports de fin d'année 2022-2023 pour la province éducationnelle du Sud Kivu 1. Il y a de grandes activités importantes que nous sommes en train de réaliser pour préparer l'année scolaire prochaine. Il s'agit notamment de la formation en cascade que nous allons organiser pendant ces vacances par l'entremise de l'inspection principale provinciale sur la formation des enseignants. Il y aura aussi des formations par rapport à la vulgarisation, par rapport à l'utilisation des nouveaux curricula des filières techniques. Mais il y a également une autre activité phare, c'est la revue annuelle de performance. Pour que nous puissions rendre beaucoup plus performant notre système éducatif au niveau provincial. Mais je dois terminer par une question qui continue à défrayer la chronique jusqu'à maintenant, vous le savez, c'est la survenue de la catastrophe naturelle. Nous avons connu 1012 élèves, soit décédés, soit portés disparus. Nous avons enregistré le décès de 14 membres du personnel enseignant. Au total, 33 écoles avaient été touchées par cette calamité naturelle. Alors, les cours dans ces écoles-là étaient momentanément arrêtés. Certaines écoles ont connu cet arrêt momentané des cours pendant 3 semaines, d'autres pendant 1 mois. Nous sommes allés à Nyamukubi et à Bushushu et nous nous sommes ralliés à l'équipe de la coordination locale qui est en train de travailler pour le relèvement de cette population sinistrée, pour la résilience de cette population sinistrée. Et ces écoles-là qui ont connu un arrêt des cours avaient clôturé l'année scolaire comme prévu et les évaluations de fin d'année ont été faites en fonction des matières qui étaient enseignées avant la survenue de cette catastrophe. Mais maintenant, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, nous avons levé l'option de pouvoir organiser des cours de récupération pendant les vacances. Donc, en ce moment où je parle, ces cours sont en train de se dérouler pendant une période juste d'un mois. Mais quant aux enfants, les vacances, théoriquement, c'est une période de repos. Les enfants, ils ont droit à ce repos-là après avoir travaillé durement pendant 9 mois. Mais nous disons qu'en ces moments-là, des vacances, les enfants sont à la disposition des parents. Et les parents sont appelés à les encadrer d'abord.
Je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef de la province éducationnelle Sud Kivu 1, Simon Zono, a affirmé dans cet entretien que pendant ses vacances sont exploités le rapport de la fin de l'année scolaire et la revue annuelle des performances. Il s'entretenait à Bukavu avec Rachel Kiesembangu. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci de l'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Rongo-Mouchinchi.